Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous voici toujours fidèles à notre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Une société qui nous tient à cœur et nous estimons fortement, chers citoyens, que votre participation, votre collaboration, le réveil de votre conscience surtout, amènera des changements majeurs et souhaitables pour le bien et le meilleur de notre société. Et parmi vos revendications les plus chères, notre combat infatigable, que l'homme devient un sujet primordial de respect, l'homme qui est le moteur de cet univers, et que sans lui rien ne fonctionne, il continuait à se désaltérer malheureusement à une somme d'illusoire, voire sans considération aucune dans une société qui prône la justice et l'égalité entre les individus. Aujourd'hui, nous allons assister, preuve à l'appui bien sûr, à une nouvelle forme d'abus de pouvoir et d'injustice où l'argent devient cette fois une force écrasante sans merci. L'argent, cette force de pouvoir mystérieusement demeure inquiétante, de ce fait de pouvoir aller jusqu'à anéantir même des peuples et des peuples, sinon lever d'autres incompétents adhérents supérieurs. Vous comprenez, mes chers citoyens, qu'il s'agit d'un déséquilibre dérangeant. Entre les mains des insoucieux, cette force peut être facilement destructive, et si elle gouverne, c'est le chaos total. Je ne vous apprends rien et vous disons que le pouvoir de l'argent a la capacité de tout décider, à n'importe quel moment et à n'importe quel lieu. Voilà pourquoi toutes les guerres de ce monde sont au nom des richesses. Chacun cherche à extraire le plus possible de l'autre. Et s'il ne reste rien de l'autre, il faut l'éliminer tout simplement afin d'écarter le risque qu'il revienne un jour réclamer ce qui lui appartient. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Vous voyez comme la plus grande connerie de cet univers, c'est bien l'homme, et pas d'autre. L'homme est responsable de son propre malheur. Mais quel genre d'homme nous préoccupe réellement aujourd'hui? Justement, dans cette émission, nous allons assister à cette sorte de connerie où l'homme va tout utiliser pour démolir, au sens propre du mot, l'autre. L'autre qui a pu être moi, ou bien pourquoi pas vous, madame, messieurs. L'argent. Qui peut se redresser devant cette forme aveugle de pouvoir? Personne, et surtout pas l'État. Elle est partie prise dans ce vieux conflit. Sinon, il reste peut-être vous, mes chers citoyens, et vous, seulement vous, ensemble, qui pourra faire le poids. N'oubliez pas que le pouvoir de l'argent est meurtrier, insensible à la vie, aveugle. Il écrase tout ce qui est devant lui pour atteindre son objectif. Nous trouvons chez nos politiciens, par exemple, ce point faible. Presque personne dans la famille politique, en général, n'est épargné de cette gangrène, même pas le Premier ministre. Devant ce fait réel, cette contamination qui fait ravage, vous constatez tous, chers citoyens, cette chute vertigineuse vers le bas. Et vous êtes d'accord aussi que le retour vers le haut, ce n'est pas un travail facile. Il y a, à mon avis, que l'honnêteté qui pourra redresser cette courbe déshonorable. Cette honnêteté, cette loyauté recherchée, je l'observe depuis longtemps parmi vous. Chers citoyens, pourquoi vous sous-estimez, si vous êtes la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, participer? La politique a toujours commencé par un désir de changement. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant d'Image, un mouvement en défense des droits de la personne face au système judiciaire. J'ai devant moi aussi mon collègue Roland Cazès, qui participera comme d'habitude à donner son opinion sur notre sujet d'aujourd'hui, un sujet qui nous dévoile clairement dans un petit exercice de témoignage. Le pouvoir de l'argent face aux citoyens d'aujourd'hui, un citoyen vulnérable qui ne tient pas le poids et s'efface rapidement de la scène. Vous allez voir comment des citoyens ont vu toute leur vie basculer en fractions de secondes devant le pouvoir et l'arrogance de l'argent. Restez avec nous après notre thème musical. Nous revenons avec notre sujet d'aujourd'hui, le pouvoir de l'argent face aux citoyens ordinaires.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup d'héros,
et les minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous avons d'abord reçu une plainte de plusieurs commerçants, dont les commerces sont situés dans l'arrondissement Côte-des-Neiges de Notre-Dame-du-Grâce. Les commerces en question sont alignés juste à côté du métro Snowdon, sur la rue Queen Mary. On parle de plusieurs commerces multiethniques qui existent depuis plusieurs années. Donc il s'agit de restaurants, boulangeries, pâtisseries, fleuristes et autres. Et cette série de commerces colorés par les empreintes du temps sont devenus forcément, une vraie richesse, sinon un patrimoine historique de ce quartier. Et je suis certain que la plupart entre vous connaissent cet endroit et vous serez d'avis que ce n'est pas les buildings résidentiels qui font le charme de ce quartier justement, mais plutôt ces modestes commerces qui sont actifs depuis déjà très longtemps et qui assurent surtout la continuité d'une diversité ethnique et de la vie de tous les jours de ce lieu. D'ailleurs, tous ceux et celles que j'ai rencontrés partagent les mêmes opinions. La mosaïque commerciale de cet endroit ne peut être remplacée aussi légèrement que vous le pensez. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au fond pour que ces gens-là, ces commerçants qui existent depuis plus d'une trentaine d'années, d'un seul coup paniquent et deviennent frustrés devant le fait qu'ils sont incapables d'arrêter le bulldozer qui les menace à tout moment, un bulldozer qui va démolir bientôt leur commerce, leurs rêves et une partie de leur vie. Bref, en deux mots, donc un nouveau propriétaire qui s'embarque un beau matin dans le quartier et décide d'acheter le grand immeuble qui abrite cette série de commerces. C'est vraiment aussi simple que ça, hein. Donc, il achète le bloc au complet, puis il envoie des avis à tous les commerçants d'évacuer les lieux avant le 30 avril et il précise à 18h. À défaut, vous connaissez la réponse. Donc, les commerçants interviennent. Mais monsieur, écoute, stop. Aucune négociation, c'est un ordre. Prenez vos affaires et fous le camp. Monsieur, s'il vous plaît, voulez-vous au moins nous écouter? J'ai dit tout le monde out. Donc, vous voyez comment le nouveau propriétaire affiche son projet, la construction de condominium, le bloc qui occupe cette série de commerces devient la propriété d'un promoteur immobilier au nom de Alprime Propriétiers INC. Donc ce promoteur compte raser le bloc de commerce au complet et construire des condos de luxe. Il prévoit aussi, soi-disant, installer quelques commerces de luxe au rez-de-chaussée. Mais putain, est-ce que ce bordel a pensé une seule fois à ces commerçants qui existent depuis toute une vie? Est-ce qu'il a pris le temps de mesurer l'ampleur de cette démolition dans la vie de ces gens-là? Sincèrement, je ne le pense pas, puisqu'il a refusé même d'adresser la parole à ces gens-là. Apparemment, ce dossier était inscrit à l'ordre du jour dans la séance du conseil d'arrondissement du 17 janvier, mais depuis, l'arrondissement l'a retiré pour le reporté à une séance ultérieure qui l'a retiré. Pourquoi? Aucune réponse de la part de l'arrondissement. Une chose certaine, le nouveau propriétaire a déjà commencé à vendre ses condominiums. Il y a même un rabais de 10 000 $ pour ceux qui achètent avant le début de la construction. Selon les commerçants visés, avant même d'obtenir une permission de construction, vous allez voir qu'il est déjà beaucoup trop en avance dans son projet. Rien ne peut arrêter ces gens-là, et surtout pas la ville. Bref, voilà ce qu'on va suivre dans les témoignages de ce matin. Toutefois, il reste que des citoyens comme vous, chères auditrices, chers auditeurs, font tout pour appuyer ces victimes, commerçants dans leur démarche. Êtes-vous prêts à votre tour de les appuyer? Écoutons ces témoignages de ces commerçants.
Oui, bonjour Oleg. Voulez-vous nous dire votre nom complet? Moi j'ai de la misère à le prononcer.
Oleg Skubiola.
Skubiola?
Oui.
Oui. Vous êtes d'origine
Je viens de l'ancien URSS, un petit coin à côté des mers Noires, Moldavie.
Vous êtes arrivé ici au Québec quand?
Je suis arrivé le 19 novembre 1997.
97.
Oui.
Et quelle spécialité? Vous avez une spécialité particulière, j'imagine?
Moi, je suis rentré dans ce pays comme immigrant reçu et ma spécialité, je suis ingénieur technologue en alimentation publique. Alors, toute ma vie, je m'en occupais de alimentation publique, c'est des gros restaurants, des gros hôtels où j'étais comme chef cuisinier toujours.
Vous êtes toujours chef cuisinier, vous avez fait beaucoup d'études pour arriver à ce stade-là, j'imagine.
Mais oui, j'ai fait 5 ans.
Oui, oui, donc vous êtes quand même ingénieur. Mais je veux savoir, M. Oleg, pourquoi vous avez choisi le Québec comme pays pour venir immigrer ici?
En particulier, c'est Montréal, parce que je savais avant d'arriver ici qu'il est plein de restos ici, il y a beaucoup de perspectives pour faire ouvrir un resto, et c'était ma rêve finalement.
C'était pour toi réaliser un rêve de venir s'installer à Montréal et ouvrir un restaurant, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ok, mais avant vous étiez quand même un chef cuisinier, vous étiez quand même maître de la cuisine et tout depuis très longtemps, j'imagine.
Oui.
Oui. Et donc vous vivez, si bien ma mémoire est bonne, vous vivez ici depuis 13-14 ans, si je ne me trompe pas?
Presque 14 ans.
14 ans. Et quand vous êtes venu arriver ici, la première chose que vous avez fait, c'était quoi à Montréal?
J'ai essayé de trouver temporairement, parce que c'était toujours dans ma tête d'ouvrir un restaurant, mais oui. J'ai essayé de trouver un travail pour se préparer pour l'ouverture, mais finalement, après 8 mois à départ de mon arrivée ici, oui, j'ai fait ouvrir ce restaurant.
Ce restaurant-là, où nous sommes présentement aujourd'hui,
oui,
sur la rue
Queen Mary.
Queen Mary, à côté du métro
Snowdon.
Snowdon. Donc, vous avez ouvert ce restaurant depuis 13 ans et j'imagine, est-ce qu'il fonctionne bien ce restaurant-là?
Chaque année, il y a beaucoup d'améliorations dans tous les domaines. Si on parle même de décoration en salle et même d'achalandage de clientèle, tout se développe chaque année parce qu'on met tout notre effort dans ça. Mmh. Et
non, mais vous avez, ça c'est comme votre, c'est votre vie, le restaurant, est-ce
que mais j'ai bien... finalement, depuis 30 ans, je m'en occupe juste de préparation pour les gens. Alors, on fait de différentes cuisines, même ici, des différentes soirées spéciales, même ethniques pour différents groupes. Et, finalement, pour moi, c'est très important, c'est comment... Mon maison ici, c'est comme ma partie de ma vie ici.
C'est une partie de vous-même. Oui.
Oui. Oui.
Vous avez des enfants, monsieur?
Oui, j'ai une fille.
Une fille. Je veux savoir, votre clientèle, vous avez, j'imagine, 13 ans travaillé sur la même clientèle, qui est différente d'ailleurs. Pensez-vous qu'ils sont satisfaits du travail que vous faisiez?
Mais on peut facilement vérifier ça sur le site web Restaurant CA où il y a des... moi, je peux pas.
Des témoignages?
Oui, il y a des témoignages de notre cuisine. Il y a de très belles références. Et on est, oui, on va dire, très haut pour les points que les gens donnent pour ceux qui les recevoient chez nous.
Oui. Donc, vous recevez des familles chaque. Comment ça fonctionne? Vous êtes ouvert chaque jour
On est fermé juste le lundi depuis 4 ans.
Oui.
Avant, on était ouvert
voilà,
même lundi.
Oui.
Mais on vieillisse quand même.
C'est ça, c'est l'âge qui prend aussi,
et
j'imagine.
On a beaucoup de réservations, des choses spéciales.
Oui.
Il y a beaucoup de mariages, de baptêmes, oui, d'anniversaires, de, malheureusement, des fois, d'autres choses comme.
Oui, je vois que votre je suis à l'intérieur de votre restaurant, je vois que le meuble, le bois, tout est rénové. Avez-vous mis un peu d'argent?
Mais oui, j'ai mis pas si mal il y a moins que 3 ans.
Vous avez rénové votre restaurant il y a moins de 3 ans?
Oui. On a rénové tout, absolument.
Mais si on parle juste des dernières 3 ans, vous avez mis à peu près combien d'argent dans ce restaurant-là?
À peu près, si on parle de... Investissement, c'est juste les derniers 3 mois qu'on a mis à peu près 60 000.
Juste 3 mois, depuis 3 mois, vous avez déjà mis 60 000
3 ans.
Depuis 3 ans, les dernières 3 ans, vous avez essayé. Depuis les dernières 3 ans, vous avez mis minimum 60 000 dollars.
Oui.
Donc tout ça fonctionne très bien. Vous êtes très content dans votre restaurant, avec votre clientèle. Qu'est-ce qui est arrivé que tout ça a basculé comme ça?
Mais finalement, l'édifice était vendu l'année dernière, au mois de mai.
L'édifice
commercial,
il est vendu, oui.
Oui. Et le nouveau propriétaire a parlé à tous locataires à propos de son projet de construire des condos résidentiels. Et oui, finalement, nous, on a reçu une lettre de...
Évacuer le...
Tous ont reçu et il faut quitter la place 30 avril et je trouve ça...
Cet avril,
oui,
le 30.
Année, oui, le 30, oui. Et je trouve que c'est injustice parce que...
Vous trouvez ça injuste pour vous?
Injuste.
Pourquoi,
oui,
vous trouvez ça injuste?
Finalement, première chose, c'est que mon bail fonctionne encore. J'ai un bail enregistré.
Oui.
Et pour être mis dans la rue après 3 ans de travail ici.
Après 13 ans, tu veux dire?
Oui, après 3 ans.
13 ans, pas 3 ans.
13 ans.
13 ans, c'est ça, oui.
Oui, je prononce
un peu mal. Ah oui, c'est ça. Mais vous parlez très bien français aussi. Vas-y. Mais,
et
vous trouvez ça difficile qu'après 13 ans de travail et d'efforts et tout ce que vous avez mis d'argent, quelqu'un qui vient comme ça parce qu'il y a le certain pouvoir de vous mettre dehors et vous vous trouvez le jour au lendemain, vous trouvez dans la rue?
On pensait qu'après une période de 13, 15 ans, on va être encore mieux avec toutes les choses.
Exactement, oui.
Et finalement, il faut penser, moi j'ai dépassé les 50, il faut penser de notre retraite aussi et tout ça.
Oui,
et alors, de se retrouver maintenant dans la rue et de commencer à zéro, c'est très difficile et
c'est
on
même
est poussé dehors finalement.
Des fois même, c'est impossible de reprendre tout à zéro. Des fois,
c'est très difficile et même de trouver une place qui est bien pour ce resto. On est quand même un resto spécial.
Je comprends très bien vous et les autres commerçants qui sont sur la rue ici. Vous avez j'imagine, un coup de révolte et tout. Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour dire, écoutez, là, il y a un problème, là. On ne peut pas se trouver le lourd au jour au lendemain, on se trouve dans la rue, ça n'a pas de sens. Quel genre de démarche vous avez suivi?
Première chose, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé consulter mon avocat.
OK.
Et on a des points...
En commun, j'imagine?
Oui. Mais qu'est-ce qu'il était dernièrement fait? Il y a des amis, il y a des connaissances qui ont créé un comité.
Oui.
Et il y a eu beaucoup de... même le comité a déposé déjà à notre arrondissement Côte-de-Neige indigné la pétition.
Vous avez signé une pétition, plusieurs personnes ont signé une pétition.
C'était le 7 février. Et c'était plus que 1200 personnes.
Qui ont signé la pétition et qui sont contre le projet qui s'installe.
Contre le projet, oui. Oui. Et même maintenant, ce comité, il fonctionne. Il y a
Mais monsieur Olek, si vous me permettez, je veux savoir, peut-être on a oublié de dire que c'est un quartier quand même ici, il n'est pas résidentiel, il est plutôt commercial.
Hein. Oui,
c'est la couleur de ce quartier-là qui est commercial et différent
commerce.
Mais
c'est un quartier ethnique, chaque deux pas, si on passe, il y a de différentes nationalités, de différents commerces ethniques.
Et c'est ça qui fait la beauté de ce quartier, si je ne me trompe pas.
Mais il y a des gens qui se déplacent. Oui. Même ici, il peut acheter un livre, je ne sais pas, n'importe quelle langue.
Oui.
Il peut manger une cuisine différente.
Oui.
Il peut acheter des produits spéciaux.
C'est très clair. Je vois que la richesse s'installe là. Mais je veux savoir, on va revenir un petit peu à l'arrondissement. Donc, vous étiez allé rencontrer des responsables pour se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des réponses là, de leur part?
Finalement, verbalement, oui, on a...
Quel genre de réponse vous avez eu?
Mais que finalement, l'arrondissement connaît la situation,
ils sont au courant de la situation.
Au courant, oui, qu'il devait avoir un projet ici, de construction, et juste ça.
Mais moi, ce qui m'inquiète, quand je viens de rentrer maintenant, j'ai aperçu comme quoi il y a un bureau de vente, si je ne me trompe pas.
Oui.
Ça veut dire qu'ils ont déjà commencé à vendre leur...
Oui, ils vendent.
Le condo déjà. Oui. Est-ce que, à votre connaissance, est-ce qu'ils ont eu la permission d'avoir...
Non, je sais que dans l'arrondissement, il n'y a jusqu'à date rien. Il y avait juste une démarche faite de leur part de permission de construire plus haut, je me rappelle combien de mètres, mais il était retiré cette demande de l'ordre du jour.
Ils l'ont retiré de l'ordre du jour.
C'est juste ça.
C'est-à-dire qu'il y a quand même
on a parlé de 30 avril, parce qu'on a eu la lettre qui était d'ici, et finalement, il est basé sur la démolition de l'édifice, mais il n'y a pas de permis de démolition.
Je reprends aussi, M. Oleg, quand je vous ai vu la première fois, vous étiez trop inquiète et tout. Vous m'avez même parlé d'insomnie, vous ne dormez même pas et tout, et je comprends. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, derrière tout ça? Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez qu'on oublie le projet, ou vous souhaitez peut-être qu'on peut construire et laisser une partie commerciale, ou vous allez toujours conserver votre commerce?
Moi, je ne suis absolument pas contre leur projet, mais il faut garder, il y a du bien qui veut faire quelqu'un comme notre propriétaire, et moi, quelque chose qui est très... il est nécessaire, pas juste pour moi, même mes clients.
Oui, c'est ça.
Et quand on fait un projet, on pense de toutes ces choses-là.
Oui.
Si on est bien, honnête, on est bien. Alors, pour moi, il est important de garder la place.
Oui. Et pour vous, le fait de démolir, qu'ils peuvent démolir ce qu'ils veulent démolir, mais pas démolir votre vie.
Ça veut démolir ma vie.
C'est-à-dire que la personne...
Comme on a parlé au début, les commerces et moi, c'est commun.
Oui, c'est ça.
On ne peut pas
détacher, séparer le commerce de vous-même.
C'est comme un couple humain.
Oui. C'est vraiment triste d'entendre tout ça. Ben écoutez, avez-vous quelque chose à dire aux citoyens aujourd'hui, puisqu'on va vous céder la parole comme ça?
Mais moi, je suis comment, très content et je veux dire un grand merci à toutes les gens qui sont impliqués dans ce comité-là.
Et qui vous appuient, j'imagine, beaucoup d'organismes.
Beaucoup de journalistes qui sont venus ici passer. Et ils ont paru des articles
dans les journaux,
Métro, Actualité.
J'ai compris, donc pas dans les grands journaux, mais les petits journaux.
Petits, mais quand même, les gens sont inquiets, ils téléphonent, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un suivi, vous voulez dire.
Oui, voudrais dire un grand merci.
Je vous remercie aussi de notre part. Merci, M. Lac.
Merci.
Chers auditeurs, écoutez, nous allons faire une pause musicale et nous revenons avec un autre témoignage. Restez à l'écoute.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme, qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme, Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. Jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes sébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Grâce au cachet de la poste, d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste, au matin du dimanche, l'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme, qui aime bien ce genre d'enjeu, veux pas être Newton, car j'en suis tombé amoureux, amoureux. Surplombait la Manche, quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut, s'il le veut. Moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut, s'il le veut.
Que vous soyez charpentier, soudeur ou cuisinier.
Bon appétit!
Si vous suivez une formation d'apprenti dans l'un des 53 métiers désignés Sceau Rouge, vous pourriez obtenir jusqu'à 4 000 en subvention du gouvernement fédéral. Une aide qui pourrait faire toute la différence. Faites votre demande dès aujourd'hui à plandaction.gc.ca/apprenti ou composez le 1-800-AU-CANADA. Un message du gouvernement du Canada.
Nuit Blanche, l'émission qui bouge et qui dérange, tous les lundis soirs de 23h30 jusqu'à 3h du matin, là où le hip-hop vit à Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Avec Dice B, Cabubles, baby. Yeah.
Muñequita, psst, psst, psst. Voltaire, que no me oyes.
Sais-tu ce que cache la confection d'une paire de jeans?
Le monologue de la Maquila.
Une farce musicale en 9 sessions et un acte qui raconte la vie des femmes ouvrières dans les usines Maquiladora.
Une coproduction Québec-Mexique.
Du 2 au 6 mars à 20h, le dimanche à 15h.
Au mai, Montréal, art interculturel, 3680 rue Jean-Mange. Réservation, 514-792-3386.
Et toi, jusqu'où irais-tu pour obtenir un pantalon à la mode?
Le monologue de la Maquila. Toute une expérience théâtrale.
Nous représentons la réalité multiculturelle de Montréal. Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc voilà, bonjour Dimitris, voulez-vous nous répéter votre nom s'il vous plaît?
Mon nom c'est Dimitri Yotis.
Ok, et nous sommes présentement dans le restaurant Rhodos, qui est juste situé à côté de le restaurant L'Ermitage, c'est ça? Je vais vous poser une question, vous êtes d'origine d'où monsieur Dimitris?
Je suis d'origine grecque.
Et vous êtes spécialisé en quoi?
Je suis spécialisé en électronique.
Vous m'avez dit que vous êtes ingénieur en électronique, c'est ça?
C'est vrai.
Oui. Et quelle sorte de coïncidence qui vous a mis sur la voie de la restauration?
C'est un business familial. Et après 30 ans de travail comme ingénieur électronique, j'ai décidé de travailler
avec ma famille.
Ouais, exactement.
Vous êtes ici au Québec depuis combien de temps?
Ça fait 36 ans.
36 ans, vous vivez ici à Montréal, au Québec?
À Montréal, au Québec.
Au Québec, voilà. Et le restaurant, il existe depuis combien de temps ici?
Ça fait 30 ans que le restaurant existe ici. À cette place-là.
Cette place-là.
C'est
même
déjà,
place.
En anglais, ça c'est une institution de cette rue ici.
Cette rue-là. Et c'est vrai que vous, si vous pouvez me parler un petit peu de la satisfaction des clients qui viennent ici, là, la clientèle ici.
La clientèle ici, ça c'est une clientèle loyale. Elle aime la nourriture qu'on servait ici.
Oui.
Et on a déjà ramassé plus que 1000 signatures,
oui.
qui chaque notre client
oui.
est satisfaction.
Oui. Et j'imagine que toutes ces répétitions ou ces signatures-là, ils sont contre la démolition de justement.
Oh,
de
définitivement.
Ce pas qu'on va arriver là, on va revenir. Donc, ici, le quartier, pour vous, est-ce que, pensez-vous, si on change le zonage, c'est-à-dire s'il va devenir juste résidentiel, pensez-vous qu'il va perdre une qualité?
Définitivement.
Oui.
Parce que, présentement, on a déjà une multiculturelle
oui.
qui ça va être détruit complètement ici.
Si, si, oui.
Et comme notre client dit chaque fois, ils ont dit dans une voice, comme on dit, avec un. Il dit que si on va perdre ça, on va perdre la face.
La face du quartier, là.
Du quartier.
Oui, oui. Je veux savoir, revenez un petit peu dans le restaurant. Nous sommes, je suis présentement dans votre restaurant. Le nom, c'est Rhodos. Et je trouve que c'est tellement propre, c'est tellement beau. Avez-vous fait des réparations de dernières années?
Oh oui. Pendant les dernières 3 ans,
oui.
on a fait les réparations ici. On a fait amélioration de cette place. Et on a dépensé plus de 70 000.
70 000 la rénovation, c'est ça hein?
Seulement pour les matériaux. Parce que tous les travaux s'étaient faits.
Dans les dernières années, 3 ans, 2 ans
3
deux,
ans.
3, 2, 3 ans. Ans, oui, c'est ça. Et c'est vous qui avez effectué vraiment les travaux avec vous-même. Hein?
Moi-même.
Oui. Donc, qu'est-ce qu'il représente ce restaurant pour vous?
Pour moi, le restaurant, ça, c'est la vie de notre famille.
C'est de la famille, autant.
Oui. Toute ma famille travaille ici. Oui. Mes enfants, ma femme.
Moi. Tout le monde, oui, je comprends. Mais là, vous vivez bien, sans soucis, sans inquiétude. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui a changé tout, là? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tout ça change?
Ça va changer dans notre vie beaucoup.
Oui. Maintenant, je veux savoir, comment vous avez appris comme quoi il y aura une démolition, comment vous avez appris qu'il y a une démolition de la bâtisse ici?
Pour nous, c'est une catastrophe. Parce qu'on va perdre notre existence comme un restaurant, comme quelque chose qui nous fait très, très fort.
Est-ce que vous avez rencontré le propriétaire, le nouveau propriétaire de Vijay?
Oui, on l'a rencontré la première fois qu'il est venu ici pour se présenter comme nouveau propriétaire.
Oui.
À ce moment-là,
excusez-moi, c'est à ce moment-là qu'il vous a dit, écoutez, là, vous devrez partir à ce moment-là?
À ce moment-là, il nous dit qu'il va détruire le bâtiment et il va construire le condo et on doit partir.
Oui.
On lui demandait de si on peut lui, après la construction de nouveaux projets.
Reprendre, si j'ai bien compris, reprendre le commerce, là.
Exactement.
Okay.
À la même place. On a reçu négatif.
Pour évacuer les lieux, oui.
On lui a demandé en même temps si on peut acheter le commerce ici.
Vous avez fait les deux propositions. Est-ce qu'on peut louer si c'est possible? Est-ce qu'on peut acheter le commerce si c'est possible?
Exactement.
C'est quoi la réponse du propriétaire?
La réponse était non, on devait partir parce que le bâtiment, ce n'est pas pour notre business ici. Il ne veut pas faire le business avec nous.
Ok. Mais là, à votre avis, à vous, suite à tout ça, vous êtes révolté, j'imagine. Et quelles sont les démarches que vous avez suivies jusqu'à présent?
Jusqu'à présent, de notre côté, la seule chose qu'on a fait, c'est
Vous avez formé un comité, j'imagine?
C'est pas nous. C'est le comité, ça a été formé par le public,
oui.
Par les clients loyaux.
Okay.
Et par les...
Enfin, tous les citoyens, j'ai compris, oui.
Exactement.
Oui. Et, mais vous, autant que propriétaire ou copropriétaire, avez-vous été allé à l'arrondissement pour poser des questions?
Définitivement. On était à la ville, à le bureau d'inspection et de permis de construction.
Oui.
Et le résultat qu'on avait, c'est que... Il est le droit de...
Le nouveau propriétaire, il a le droit de démolir le lieu.
Il a le droit de faire le condominium.
Mais vous êtes dans un zonage ici commercial.
Commercial 100%.
Et il a le droit de changer le zonage pour résidentiel.
Oui.
Ça, c'est au niveau de l'arrondissement.
Oui.
Ce qu'il a obtenu, peut-être.
Mais à ce moment-là, comme on a parlé, ça fait approximativement... La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était trois semaines.
Oui.
Il n'y a aucune demande à la côté de nouveaux propriétaires pour faire la construction.
Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas, au niveau de l'arrondissement, il n'y a pas de demande qui est faite?
Aucun.
Est-ce que pensez-vous qu'il a la permission de le faire?
Non, il n'y a aucune permission à ce moment-là.
Mais pourtant, quand j'avance de rentrer ici, je vois comme quoi il y a quand même des annonces qui sont marquées, comme quoi il y a un condominium à vendre et tout, là.
Ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que c'était la question que j'ai posée au inspecteur.
Oui.
Et il m'a dit, c'est pas correct. Il ne va pas être comme ça.
Ça, c'est l'inspecteur de la ville, de l'arrondissement?
Exactement.
Il s'appelle comment, cet inspecteur-là?
On n'a pas pris son nom.
Oui, ok.
Parce qu'on ne sait pas que c'est très important.
Non, non, juste pour un titre d'exemple, si tu mets continuer là.
Et il nous dit que l'inspecteur doit arrêter, quelqu'un doit arrêter cette activité.
Oui.
Et la seule chose qui ça reste, que si quelques citoyens, il va faire le complaint.
Les plaintes, oui.
Les plaintes.
Ouais.
À ce moment-là, le bureau d'inspection, ça va prendre l'action.
Mais je veux savoir, vous avez quand même officiellement reçu quand même les lettres d'évacuer le 30 avril, si je ne me trompe pas.
C'est correct.
C'est ça ce que vous avez reçu?
C'est correct.
Et pour ça, vous attendez que le 30, vous serez mis dehors dans la rue ou quoi?
Exactement, c'est ce qu'on a lu avec la lettre. Ça veut dire qu'on va partir le 30 avril.
Oui.
Et c'était la question si on peut le faire. Et la ville, elle nous dit que c'est pas le cas que le nouveau propriétaire il a le permis de démolition. Ça veut dire que le 30 avril, c'est quelque chose qui est...
étrange un petit peu.
Exactement.
Mais je veux savoir, vous m'avez dit, vous m'avez parlé avant cette entrevue, comme quoi vous étiez allé quand même visiter d'autres arrondissements et demander s'il y a le cas, ils peuvent s'appliquer oui ou non.
Exactement. Je suis allé à Hochelaga-Maisonneuve.
Oui.
Et
l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve.
Hochelaga-Maisonneuve, oui. Et l'arrondissement de Plateau-Mont-Royal.
Et vous avez posé la même question. C'est vrai, c'était quoi la question que vous avez posée?
La question, c'était c'est quoi la condition de faire le condominium si on a, disons, la place commerciale.
Dans un zonage commercial, oui.
Et l'arrondissement de Plateau, il nous dit qu'il n'y a aucun droit maintenant, il y a un moratoire pour faire le condominium. Le seul cas qu'on peut faire le condominium à cet arrondissement, si la terre est disponible. Ça veut dire qu'il n'y a aucun bâtiment sur la terre.
Et pourtant, ici, nous sommes juste à côté du métro Standon.
Exactement.
C'est un petit peu quand même extrêmement bizarre, hein, cette histoire-là.
Il y a trop de questions à ce projet-là.
Qui se posent, oui.
La première, non, pas la première, mais entre beaucoup de questions, j'avais posé la question de faire le garage sous-sol, de la sous-sol.
Oui, parce qu'il est trop en bas. Hein.
Exactement. Oui, oui, oui. L'arrondissement, il nous dit que le maximum qu'il peut descendre, c'est 4 mètres, mais pas plus que ça.
Oui.
À ce moment-là, c'est
faire des garages,
c'est très questionnable, c'est... comment est-ce qu'elle va faire le garage.
Mais je veux savoir, pensez-vous que ce projet va se réaliser ou non? À votre avis, comme ça,
je ne sais pas.
C'est difficile de.
C'est très difficile de savoir. Je ne sais pas.
Aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce que vous vous aurez souhaité. Qu'est-ce que vous aurez souhaité? Qu'est-ce que vous aurez souhaité dans l'avenir? C'était quoi le mieux pour vous ici?
Oh, ici le quartier. J'aime le quartier. J'aime beaucoup que notre clientèle. Ça, c'est clientèle de toute nationalité que vous pouvez imaginer.
Ouais. Mais si, par exemple, le propriétaire demain il va vous proposer de rester, c'est-à-dire qu'il va construire dans 6 mois, vous allez revenir dans votre place ici, vous allez sentir que ça va être bien pour vous
Et à ce moment-là, à ce moment-là, la façon qu'on a parlé avec le nouveau propriétaire,
c'était impossible. C'était
très, très, très mal façon parce qu'il nous parlait comme... On a second class citizen, comme on dit.
C'est ça.
Et il ne nous donnait aucune
possibilité.
Possibilité.
Donc vous pensez que...
Pour moi, c'est très difficile de...
Les chances sont zéro, c'est ça?
Oui.
Nul. Une dernière question, peut-être je veux savoir. Qu'est-ce que vous avez à dire aux citoyens aujourd'hui pour être appuyés dans vos démarches, pour interdire ou essayer de trouver une solution à ce conflit?
Je pense...
Avez-vous quelque chose à dire aux citoyens aujourd'hui?
Je pense qu'après 30 ans que ce restaurant ici, on a devenu comme un... Ça, c'est notre vie ici. On travaille ici pendant 18 heures par jour.
C'est clair, oui.
Ça, c'est notre... comment dire... Ça, c'est ma maison ici.
Oui, c'était une vie, là, tu vois.
Exactement.
Peut-être, oui.
Et les enfants, ils ont grandi ici aussi.
Oui, oui.
Et quelque chose comme ça, que ça nous arrive ici, ça c'est détruit quelque chose qui était comme moral.
Donc pour vous, vraiment, démolir l'édifice ici, c'est démolir votre vie, si je ne me trompe pas?
Exactement.
Je te remercie bien, M. Dimitri.
Merci.
Ben voilà, donc écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, d'abord nous allons écouter une musique et nous cédons par la suite l'antenne à un autre témoignage. Restez à l'écoute.
comme à tout se mêle. Et du cœur à tes lèvres, je deviens ton casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant. Nous n'avons trop rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Mais il m'aime. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. On se prend la main comme des enfants, le bonheur aux lèvres un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime.
Donc, bonjour Serge, nous sommes ici dans la boulangerie pâtisserie, le nom c'est Au plaisir du palais. Votre nom Serge, votre prénom, votre nom de famille, pardon.
Mia Castista.
Vous êtes d'origine d'où?
Camerounaise.
Camerounaise?
Oui, Camerounaise. Oui.
Pardon. Et c'est-à-dire vous êtes ici dans ce commerce-là depuis combien de temps?
Depuis 2 ans. Ma femme a travaillé d'abord avec l'ancien propriétaire et quand il était sur le point de vendre, elle est venue me dire, voilà, il y a un... le propriétaire qui vend son magasin, et puis on a décidé ensemble de l'acheter.
Donc vous avez acheté le fonds du commerce?
Oui, nous avons acheté le fonds du commerce.
Il y a depuis 2 ans?
Depuis 2 ans, oui.
Vous avez payé combien pour le l'achat?
150 000 dollars.
Vous avez déboursé 150 000 dollars pour le fonds du commerce?
Oui.
Pour commencer à travailler de nouveau, c'est ça, à zéro, à partir
oui,
de zéro?
À partir de zéro.
Oui, voilà. Et vous m'avez dit que vous exploitez le commerce depuis 2 ans. Vous, votre spécialité, c'est quoi?
Boulangerie, viennoiserie.
Vous êtes spécialisé dans la boulangerie, la pâtisserie et tout, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Excellent. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé, à part l'offre de l'ancien propriétaire? Est-ce que c'est le quartier qui vous a poussé? Ou c'est, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment d'acheter ce commerce-là?
Oui, j'ai vu que c'était un quartier assez commercial et que, vu l'expérience que ma femme avait déjà dans ce domaine, puisqu'elle travaille avec le propriétaire depuis 10 ans avant qu'on ne l'achète,
oui.
Elle avait quelques expériences là-dedans et elle m'a beaucoup encouragé parce qu'avant, je travaillais... dans une autre compagnie et
oui.
elle a réussi à me convaincre qu'on puisse venir l'acheter parce qu'elle, étant déjà dedans depuis 10 ans, a vu que ça pouvait être quelque chose de bien, quoi.
De bien pour tout le monde, pour la famille.
Pour la
famille. Mais je veux savoir maintenant, une fois que vous êtes arrivé ici, avez-vous des rénovations à faire? Vous avez fait des rénovations ou vous avez...
Oui, nous avons fait des rénovations parce que quand nous sommes arrivés, il y avait de l'eau qui montait dans le goût au sous-sol et puis on avait des bébites un peu partout.
Oui.
Et puis on était un peu obligés d'essayer de recouvrir le mur avec de la peinture et changer les murs qui étaient pourris par l'eau qui venait du toit.
Oui.
Afin que les bébites ne puissent plus chasser nos clients. Et avec ça... on a essayé d'atteindre un certain... nous avons essayé de remonter un peu la clientèle parce qu'au début, les bibites faisaient partie des clients, quoi.
Oui, mais là, je ne veux pas parler de satisfaction. J'imagine que vous avez une clientèle qui est de plus en plus... vous avez gagné combien? Presque 12, 13 ans, la clientèle qui est toujours
fidèle, ouais.
Fidèle et tout.
Ouais.
Maintenant, vous, une fois que vous avez acheté le fonds de commerce... Est-ce qu'il y avait un bail à signer ou c'était quoi? Comment c'était
oui,
cette tâche-là?
Oui, ma femme et moi, nous sommes allés voir l'ancien propriétaire du temps.
Oui.
Il a dit, voilà, le bail de l'ancien propriétaire reste 2 ans. Donc, quand les 2 ans vont être finis, vous allez revenir, on va renouveler le...
C'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est-à-dire, quand vous avez le moment où vous avez acheté le fonds de commerce, le bail lui est resté deux ans. Mais automatiquement, il y avait toujours cette parenthèse ouverte que la prolongation est automatiquement...
Existait, oui.
Là, aujourd'hui, moi, je rentre dans votre magasin, dans votre commerce, et je trouve tout est à l'envers. Vraiment catastrophique ce que je vois devant moi. Qu'est-ce qui est arrivé là?
Oui, parce que après les 2 ans, c'est un nouveau propriétaire qui arrive et qui nous dit, voilà, l'immeuble a été vendu et elle va être démolie, il faut que vous ramassiez vos affaires et que vous sortez.
Oui.
Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? On ramasse les affaires juste comme ça et on sort. Il dit, oui, ça sera comme ça. Je dis, mais il n'y a pas moyen de nous aider à aller nous réinstaller quelque part.
Mais avant ça, est-ce que vous avez proposé le... Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire, il n'y a pas de possibilité de prolongation de bail,
non,
absolument rien.
Il m'a dit, ce n'est plus le même propriétaire. dont on parle plus de bail. Là. Tout est, c'est une nouvelle administration et c'est comme ça que ça va se passer. Vous ramassez vos affaires et puis vous sortez.
Mais vous étiez vraiment naïf à ce point-là de signer un bail comme ça
Oui, on était naïf parce que c'était la première fois qu'on se.
Dans une aventure
de business. On a toujours travaillé pour d'autres personnes, mais c'était la première fois pour nous d'essayer de travailler à notre compte. Donc il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas déjà.
C'est-à-dire que je vois, comme je l'ai dit, le commerce et les comptes à l'envers. Qu'est-ce qui se passe dans votre commerce? Est-ce que vous avez déjà commencé à déménager? Avez-vous une place pour aller transporter toutes vos affaires
Non, aucune place, parce que là, vous restez comme ça, vous attendez à rien et les affaires ne sont. Parce que normalement, quand quelqu'un est commerce, c'est peut-être après 5 ans qu'il commence à avoir le bout du tunnel. Là, nous sommes encore tous en train de se chercher et ils viennent nous demander de partir comme ça. On n'a pas le moyen pour déménager. Je peux pas. Les fous qui sont là, c'est des fous qu'il faut démonter. J'ai pas assez de moyens pour.
Oui, mais excusez-moi, maintenant le propriétaire, il vous a donné jusqu'à aujourd'hui, le 1er mars aujourd'hui, pour venir chercher la clé, c'est ça?
Oui,
mais je vois, il y a encore votre matériel, il est là. Qu'est-ce que vous allez faire avec matériel?
Je ne peux rien faire. Si il veut venir chercher les clés, je vais lui donner les clés.
Avec le matériel qu'il y a?
Oui.
Parce que vous n'avez pas d'autre place où aller
installer? Je n'ai pas d'autre place. Non, je n'ai pas d'autre place. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Donc, je ne peux rien faire. Il vient prendre les clés, je donne les clés.
Donc, vous laissez tout le matériel là et vous partez, vous quittez comme ça?
Oui.
Vous trouvez ça comment, vous?
Moi, je trouve ça injuste parce que j'ai l'impression que les gros poissons, on protège les gros poissons pour manger les petits poissons. Quoi. Donc, moi, je ne peux rien contre lui. C'est un monsieur très riche et je suis quelqu'un qui ne peut pas.
Il n'a pas assez
de moyens pour aller chercher les avocats contre lui.
Mais avez-vous fait des démarches au niveau de l'arrondissement?
Je n'ai fait aucune démarche parce qu'il m'a dit c'est comme ça.
Si le bail est fini.
Oui, le bail est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc, vous allez
aucune
sortir.
Ouverture.
Aucune ouverture.
Et vous jamais, aujourd'hui, j'imagine que vous allez lui donner la clé, vous allez partir comme
oui,
ça.
Oui, je vais aller dans la rue puisque c'était comme un business familial. Je travaille dedans avec ma femme. Donc nous deux, nous nous retrouvons au chômage. À un moment, on ne s'attend pas et ne passe pas de préparation. Donc c'est vraiment catastrophique. Quoi. Et je trouve ça tellement injuste pour la société canadienne d'avoir des gens qui veulent se débrouiller et qu'on ne trouve pas quelque chose pour pouvoir les aider. Quoi.
Mais qu'est-ce que vous aurez souhaité, monsieur?
J'aurais souhaité qu'il y ait une justice, qu'on essaye de voir avec le propriétaire comment
négocier avec le propriétaire.
Oui, et puis trouver un moyen de nous réinstaller quelque part. Parce que nous sommes des jeunes gens qui nous battons pour nous en sortir. Et lorsqu'on vient briser notre rêve avec plein de dettes et plein d'autres problèmes de famille à cause de ce business, on ne sait plus comment, à quel ciel se vouer, quoi. Donc, j'aurais souhaité que le propriétaire puisse nous relocaliser et nous donner les moyens de pouvoir continuer à se battre. Pas de couper notre rêve à un moment où on s'attend le moins.
Exactement, parce que ce que je sens, moi, présentement, c'est vraiment démolir le rêve d'une famille, totalement.
Ouais,
et parce que partir de payer un fonds de commerce 150 000 $ et c'est-à-dire après 2 ans, vous êtes mis dehors comme ça, c'est tristement malheureux.
Ouais. Ouais. C'est vraiment malheureux parce que normalement, le rêve de chaque personne, c'est que quand il commence quelque chose pour pouvoir préparer son avenir, c'est d'aller jusqu'au bout. Et quand ce genre de choses arrive, je pense que la personne qui vient faire ce genre de choses doit prendre les moyens disponibles pour ne pas tuer cette personne. Parce que c'est comme nous tuer là. Parce que tuer quelqu'un, c'est pas juste enlever le souffle.
Ouais.
Quand tu viens, tu prends tous les sacrifices. Parce que là, c'est un sacrifice, c'est un gros sacrifice que j'ai mis dans ce.
Dernière question que je poserai, Serge. Est-ce que vous pensez que ce quartier devrait garder le caractère, le motif comme ça commercial, ethnique un petit peu
Je crois que le quartier devait garder ce motif commercial parce que c'est un quartier multi-ethnique et puis les commerces dans le coin marchent super bien parce qu'on rencontre les gens venus de partout le monde et puis chacun dans son commerce trouve son salut parce que les gens sont gentils, les gens sont disponibles
Mais écoute Serge, je sais vraiment pas quoi vous dire parce que là vous allez partir comme ça, les mains vides, c'est doublement triste. Je peux te dire, je sais pas même pas si je peux te dire bonne chance et voilà, c'est tout.
Merci.
Et voilà, donc, chers auditrices, chers auditeurs, maintenant, je vais retourner vers mon collègue Roland Cazès. Roland, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire?
Eh bien, c'est malheureux à dire, mais il y a à peu près 4 à 5 ans que je connais ces endroits, ces commerçants et ainsi de suite, qui ont divers commerçants, comme Dimitri qui est à Rhodos, qui est le restaurant grec, Hermitage qui est Oleg, qui est naturellement une cuisine formidable, qui est très agréable. Le pâtissier, avant c'était une Française qui avait là, qui a vendu à Serge et à sa dame.
Bon,
le coiffeur, André,
le
fleuriste. Il y a Sabroué aussi, un peu plus loin. Bon, alors, venons-en aux choses. Ces gens-là ont investi. Ouais. Ils ont investi de l'argent.
Mais Roland, attention, ce n'est pas juste l'argent, c'est une vie. Ils ont investi
une vie aussi. Hein, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous aimez votre commerce, vous mettez votre argent dans ce commerce, c'est parce que vous croyez en vous et vous croyez en l'avenir.
Tout à fait.
Oui. Tout d'un coup, du jour au lendemain, par exemple, Dimitri a mis au-dessus de 70 000 dollars d'équipement, de bois, de matériaux seulement. Oui. Pas de main-d'œuvre, c'est lui qui a fait tout.
Qui s'est... Il travaillait, oui.
Ah, il travaillait très bien d'ailleurs.
Parce que pour lui, il pensait vraiment aller chez lui, quoi.
Voilà. C'était une personne, bon, je l'ai vu travailler du jour à la nuit, puis pas pendant les repas naturellement, mais en dehors des repas, j'ai vu ce gars-là se démener, travailler comme un fou. Donc, c'était leur bébé, ce commerce-là.
C'est ça.
C'était leur enfant.
Exactement, c'est ce qu'il a dit.
C'est comme quand on entretient un enfant, on veut que cet enfant soit en santé, en forme, beau et ainsi de suite. Eh bien, lui, son commerce, là, ben, ses enfants travaillaient avec lui, sa femme travaillait avec lui. Naturellement, ces gens opèrent ce commerce depuis de longues dates. Ensuite de ça, il y a naturellement Hermitage, Oleg. Oleg a investi à peu près dans les 60 000 dollars il y a, mettons, un an et demi à deux ans, là. 60 000 dollars de matériaux aussi seulement.
Oui.
Bon, pas de main-d'œuvre. Il a travaillé jour et nuit. Il a été obligé de fermer, de faire des sacrifices.
Oui. Mais tout ça, on a bien compris. Mais j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur l'histoire, le permis de construction, zonage de la.
Et voilà. Alors, à la ville de Montréal,
oui.
Il y a eu des changements au point de vue urbanisme.
Voilà.
C'est-à-dire que l'urbanisme, si on applique la question, ça veut dire le nombre d'étages permis.
Oui.
Par exemple, avant, dans certains lieux, il était interdit de monter plus que 3 étages. Par exemple, il y a des villes comme Verdun, comme d'autres places.
Oui.
Là, à présent, ils ont le droit d'aller jusqu'à 5 étages. Alors là, ça a commencé, les promoteurs, là, à bouillir, là, parce que là, ils voulaient tous faire des condos, 5 étages, ça commence à devenir rentable.
Voilà.
Un toit pour 5 étages de condo, c'est valable, n'est-ce pas?
Oui.
Et là, nous avons automatiquement une ruée vers les condos, malgré qu'il y ait une saturation de condos, il y a une ruée vers ça. Et ces gens qui veulent faire des condos, c'est à n'importe quel prix. Ils sont prêts à sacrifier les commerçants, ils sont prêts à sacrifier tout le monde, à renvoyer tout le monde, enfin faire une espèce de loi d'extrême droite. Que j'appellerai. Là, il faut l'employer le mot.
Oui.
S'en fout le monde dehors.
Tout à fait.
Et là, ces personnes qui ont travaillé toute leur vie là-dedans se sentent tout d'un coup handicapées complètement. Leur équipement, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Où ils vont aller? On va prendre le cas, bon, Oleg a travaillé énormément aussi sur son commerce. Et c'est un très bon restaurant, si vous saviez comme il est bien fréquenté.
Oui, mais Roland, peut-être, j'ai tout compris, mais est-ce que pouvez-vous nous dire, comme un dernier mot, en dernier comme ça, qu'est-ce que ces commerçants espèrent aujourd'hui? Ils espèrent quoi aujourd'hui?
Ben écoutez, ils ont espéré, ils ont même proposé à cette compagnie en question d'acheter un condo commercial en bas s'ils reconstruisaient des commerces.
Mais pensez-vous qu'ils auront une place
Ils leur ont dit que non, ils n'étaient pas intéressés. Ils ont dit, ou louer si vous voulez. Ils ont dit non, on n'est pas intéressé. Ou acheter, on n'est pas intéressé.
Donc ils
ont une intention.
Donc, mais au bout du rouleau, vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir pour ces gens-là ou quoi?
Eh bien, ces gens-là sont frustrés, abusés. Et moi j'appellerais spoliés.
Merci.
Ce sont des gens qui ont été spoliés.
Merci Roland. Donc voilà, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Je vous invite, chers auditrices, chers auditeurs, d'appuyer ces commerçants. Et j'espère que l'arrondissement prend position afin que ces modestes commerçants, d'une façon ou d'autre, trouveront leur compte dans cette triste histoire. Donc, merci à notre collègue Roland Cazès pour son éclairage et son intervention. Merci à notre technicienne de son, Marion Longuet, et sans oublier Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe.
Est-ce qu'on reviendra avec un prolongement de cette histoire?
Moi, je penserais que oui. Selon les développements qui vont suivre. Donc voilà, à moi, chère auditrice, chère auditeur, je vous dis, passez une excellente...
Venez chez Lida.
L'endroit à Montréal où vous procurez les matelas orthopédiques en exclusivité. Les vrais, les originaux, faits au Québec. Chez Lida, ils sont simplement des spécialistes du matelas à des prix qui ne vous empêcheront pas de dormir.
Venez voir l'expert Lida.
Oui, venez chez Lida. Comparez et jugez. L'expert en matelas, c'est Lida. 65-52 Boulevard Saint-Laurent, juste au nord de Beaubien. www.lida.com.
La canción y su autor, una emisión dedicada a la música latinoamericana y español, ainsi que ses artistas. Tous les dimanches de 11h30 à midi sur les ondes de Radio Centreville 102.3 FM. Je vous y attends.
Radio Centreville vous fait des offres alléchantes sur sa page Facebook. Misez sur un prix qui vous intéresse et économisez. Les fonds amassés servent au financement de votre radio à but non lucratif. Recherchez la page Facebook de Radio Centreville et partagez la nouvelle avec vos amis.
Pour vos vacances au juste prix, 1-855 Mini-Prix ou 1-855-646-4774. Une agence de voyage d'ici vers tous les pays. 1-855 Mini-Prix. Service sans souci, toujours au juste prix. 1-855 Mini-Prix ou 1-855-646-4774. Détenteur d'un permis du Québec. Voyage, voyage!
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centreville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Radio Centreville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.